Bonjour et un très grand bienvenue de ma part. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien. Je suis l'un des pasteurs assistants ici. Et aujourd'hui, on a le privilège de considérer ce sujet un peu sensible, mais combien c'est important pour la vie chrétienne. Et je vous dis tout de suite, on va pas pouvoir couvrir tout ce que la Bible a à dire là-dessus ce matin. Donc si vous êtes un peu frustré parce que je n'ai pas couvert l'un ou l'autre aspect de ce sujet, n'hésitez pas à venir me parler ou parler avec l'un des anciens. Après, je ne peux pas tout dire, mais j'espère qu'on va pouvoir couvrir l'essentiel de ce sujet. Et je reconnais aussi, on est sur un terrain un peu sensible, donc s'il y a quelque chose qui vous trouble d'une façon ou d'une autre, encore une fois, n'hésitez pas à venir me parler après. Ce n'est pas mon intention de vous troubler, mais évidemment, on reconnaît que c'est un sujet délicat. Et voilà. Mais on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à comprendre sa parole. Donc, merci de prier avec moi avant de regarder sa parole. Donc, merci Seigneur pour ta parole. Merci que ta parole est claire sur cette question qui est au cœur de notre identité humaine, au cœur de la vie chrétienne. Nous avons besoin de ton aide pour comprendre ces questions qui sont parfois difficiles, mais aussi merveilleuses. Que tu puisses chauffer nos cœurs avec ces réalités magnifiques et que tu puisses nous mettre au défi. Là où nous avons besoin d'être mis au défi, nous avons besoin de confesser nos péchés, que tu puisses nous pardonner dans ta grâce et nous aider à suivre ton chemin. Et je prie au nom de Jésus. Amen. La sexualité est partout. Vous êtes en route pour le travail, vous passez devant une publicité, peut-être pour un parfum, il y a une femme légèrement vêtue qui attire votre attention. Vous allumez la télé, il s'agit d'une scène intime. Vous recevez dans votre boîte de réception un mail avec un lien vers des images pornographiques. On estime que le secteur global de la pornographie vaut 96 milliards de dollars. Vous avez peut-être entendu récemment que la Belgique considère la possibilité de promouvoir auprès des enfants de 9 ans la pratique d'envoyer des sextos, des messages sexuels, comme une forme légitime d'expression. C'est partout. En tant que chrétien, qu'est-ce qu'on devrait faire avec la sexualité? Et si on a le droit de profiter de ces plaisirs? Et si on est en grave danger? Je me demande quelle approche ou quelles approches vous avez déjà rencontrées. Il y a l'approche des moines. Le monde et le plaisir physique sont mauvais. Il faut se retirer pour se protéger et éviter tout contact. Il y a l'approche du légaliste. 10 règles pour éviter l'immoralité sexuelle. Et si on tombe, on se culpabilise, on se flagelle. Il y a l'approche du libéral. Il ne faut pas être trop strict, ce sont des désirs naturels. Il faut s'adapter à la culture. Après tout, Dieu ne veut pas, Dieu veut que nous soyons épanouis. Je me demande ce que vous attendez de cette prédication. J'espère que vous voulez connaître l'approche biblique. Car la Bible parle beaucoup de la sexualité. Et la Bible ne prône l'approche ni des moines, ni du légaliste, ni du libéral. La Bible prône l'approche de l'Évangile. Car la sexualité n'est pas au centre de la Bible. L'Évangile l'est. Encore l'Évangile? Encore Jésus et la croix? Quel est le rapport avec la sexualité? Dans ma première année à l'université, mon église a proposé une retraite pour les étudiants. Si vous connaissez Robbie Bellis, pasteur à Louvain-la-Neuve, il était présent lors de cette même retraite. Le thème des messages cette année-là, c'était Dieu, la sexualité et le mariage. Et je me souviens, quand le pasteur annonçait le thème de la retraite dans les semaines avant la retraite, il mettrait toujours l'accent sur le deuxième mot pour attirer l'attention des étudiants. Dieu, la sexualité et le mariage. J'étais devenu chrétien il y a à peine 3 mois. Il suffit de dire que j'avais jamais entendu un message biblique sur ce sujet. J'étais bouleversé. Et une chose m'a marqué plus que toute autre chose. Le pasteur n'a pas commencé par la sexualité. Il a commencé par l'évangile. C'était lourd de signification. Je sentais mon cœur brûler en moi. Il y a quelque chose de bien plus important, de loin plus précieux que la sexualité. La sexualité n'est pas au centre de la vie, ni toute autre chose. Jésus l'est. Et combien je remercie Dieu qu'il a permis à ce que je comprenne ces choses si tôt dans ma vie chrétienne, non seulement sur la sexualité, mais sur la centralité de l'Évangile. Si vous retenez une chose ce matin, je veux que vous reteniez ceci. La sexualité n'est pas au centre de la vie. Jésus l'est. Le problème du monde n'est pas au final qu'il y a trop d'immoralité sexuelle. Le problème, c'est que le monde ne met pas Jésus et l'Évangile au centre. Quand on refuse d'accorder à Dieu la place centrale, nos cœurs vont s'accrocher à d'autres choses. Pas surprenant que très souvent, c'est la sexualité qui est le premier candidat pour la place centrale. Combien la sexualité est puissante, captivante, attirante. Mais il existe quelque chose de plus attirant, plus captivant, plus puissant. Il y a une histoire d'amour à côté de laquelle Roméo et Juliette devient un roman trash. L'amour de Dieu est tellement grand que l'amour sexuel pâlit en comparaison. Nous avons été créés pour nous épanouir dans cet amour. Nous avons été infidèles. Nous nous sommes fuis loin de ses bras. Et pour cela, nous méritons une punition éternelle, sans Dieu, sans l'amour, sans tout plaisir. Mais l'amour de Dieu est tellement grand qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. L'amour de Jésus est si grand qu'il a accepté de mourir à notre place, à prendre la punition à notre place. La grâce de Dieu a surabondé envers nous, pécheurs, pour pardonner toutes nos fautes pour tous les temps. On entre dans une relation d'amour intime et intense, une relation d'amour fidèle qui ne sera jamais brisée, une relation avec le seul être parfait qui nous chérit, qui nous protège, qui nous connaît, qui nous chérit comme une mariée, qui mérite notre adoration la plus profonde. Et cette relation est ouverte à tous ceux qui se repentent et placent leur foi en Jésus. C'est ça le centre de la vie. C'est ça l'épanouissement. Accordons à Jésus la place centrale, pas la sexualité. Et cela ne veut pas dire que la sexualité n'a pas d'importance. La Bible en parle beaucoup, mais elle la traite en lien avec l'Évangile. Si l'Évangile est au centre de la Bible, pas surprenant que la vision biblique de la sexualité découle de l'Évangile. Et pour comprendre la vision biblique de la sexualité, nous devons commencer au début. Lisons, vous avez quelques passages bibliques dans vos... Je vous encourage aussi à ouvrir vos Bibles pour avoir le contexte de ces textes devant les yeux. Mais voici un texte dans Genèse 1, 27. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Nous apprenons que les hommes et les femmes sont créés à l'image de Dieu. Ils sont donc égaux en valeur. Égaux, oui, mais aussi fondamentalement différents. Contrairement à ce que notre société veut nous faire croire, c'est Dieu qui décide notre genre. C'est inscrit dans notre ADN. Et ça, c'est pareil dans le chapitre 2. Adam avait besoin de quelqu'un comme lui Verset 23, chair de ma chair, mais quand même différent. Dieu aurait pu créer un deuxième homme, mais il a choisi de créer une femme. Ceci n'est pas une prédication sur le genre. Dans deux semaines, on va avoir une autre prédication là-dessus. Mais on ne peut pas ignorer que la distinction des genres est fondamentale pour la sexualité. Comme le verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, la sexualité. Vous voyez, dès le début, les relations sexuelles sont pour un homme et une femme, pas deux hommes ou deux femmes, un mariage hétérosexuel. Et aussi, un homme et une femme, pas plusieurs, un mariage monogame. Un mariage où on s'attachera pour la vie, un mariage fidèle. La sexualité fait donc partie du bon dessein originel de Dieu, mais elle a un cadre, le mariage, un mariage hétérosexuel, monogame et fidèle. Et le reste de la Bible confirme cela à maintes reprises. Vous me dites peut-être, très bien, mais où est l'Évangile? En fait, ce texte a tout à voir avec l'Évangile. Ce n'est pas pour n'importe quelle raison que Dieu a créé la sexualité pour le mariage. Le mariage et la sexualité ont essentiellement deux grands buts. Ils servent d'abord à refléter l'Évangile. Voilà, un miroir pour refléter l'Évangile. Ils servent aussi, c'est plus difficile à chercher une analogie pour celui-là, mais à propager et à servir l'Évangile. On va revenir là-dessus. Pourquoi les chaussures? Nous voyons ces deux buts en germe dans Genèse 1. Verset 27, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Il faut l'homme et la femme ensemble pour refléter Dieu. Et ça c'est le premier but. Le mariage et la sexualité ont été faits, créés pour refléter Dieu. Le verset suivant parle de la tâche de se multiplier et de soumettre à la terre. Essentiellement, Dieu veut que l'humanité propage et sert ses projets sur terre, qu'ils soient ses petits représentants, qu'ils soient des dirigeants bienveillants de sa création. Voici le deuxième but, le mariage et la sexualité servent à accomplir cette mission. Et ces deux buts se trouvent aussi dans Genèse 2, quand le verset 18 dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça ne veut pas dire qu'Adam était triste dans sa solitude. Après tout, il avait une relation parfaite avec Dieu. Non, Dieu ne dit pas qu'il va créer une amie pour Adam, mais une aide. La création est bonne, mais incomplète sans la femme. Elle est la pièce de résistance. Tout seul, Adam ne peut pas refléter Dieu. Voilà le premier but. Quand on regarde au mariage, c'est comme si on regarde dans un miroir et on voit un petit reflet de l'image de Dieu lui-même. De plus, l'homme ne peut pas servir Dieu tout seul. En premier lieu, il ne peut pas se multiplier et remplir la terre sans la femme, mais leur tâche commune dépasse le simple fait d'avoir les bébés. Dieu voulait que cette aide soit avec Adam, en permanence une petite équipe parfaitement unie pour servir Dieu ensemble. Voilà le deuxième but, semblable mais différent. Ok, je comprends que si on marche avec deux chaussures comme ça, ça ne marche pas, mais il ne faut pas pousser l'analogie trop loin. Mais semblable, voilà une chaussure d'homme et une chaussure de femme, semblable mais différent comme une paire de chaussures. Ils se complètent parfaitement afin d'aller servir Dieu ensemble. Vous avez compris l'analogie. On n'a pas le temps de considérer le reste de l'Ancien Testament, mais il suffit de dire que ces deux buts restent à l'ordre du jour tout au long de l'histoire d'Israël. Mais sautons au Nouveau Testament. qu'en est-il du premier but? Refléter ou imiter Dieu, c'est clairement une priorité pour les chrétiens. Mais selon Éphésiens 5, le mariage retient un rôle spécial là-dedans. Vous avez ça sur les fiches. Le verset 31 cite... Le verset 31 cite Genèse 2, 25. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. » Et Paul explique « Il y a là un grand mystère, je dis moi, qui se rapporte au Christ et à l'Église. » C'est-à-dire, depuis la création, Dieu a toujours voulu que le mariage pointe vers Jésus et l'Église. Comment ? Parce que le mariage est un reflet, une image, une écho de l'Évangile. Paul explique, les maris reflètent Christ par leur autorité bienveillante. Spécifiquement, ils reflètent la croix en se sacrifiant chaque jour par amour pour leur femme. Et les femmes reflètent l'Église en se soumettant à l'autorité bienveillante, en acceptant l'amour sacrificiel de leur mari et en les aimant en retour. Je suis conscient qu'on n'a pas le temps de creuser ces idées qui risquent d'être un peu controversées ce matin, mais le point principal, c'est ceci. Quel honneur est accordé au mariage et à la sexualité d'être un moyen de refléter l'Évangile, la gloire de l'Évangile. Et les relations sexuelles servent ce but. Mari et femme, par votre union physique, vous êtes en train d'exprimer et de renforcer l'intimité, un petit reflet de l'intimité spirituelle qui existe entre Christ et son peuple. Vous êtes en train d'exprimer et de renforcer votre unité, un petit reflet de l'unité qui existe entre Jésus et son peuple. Vous êtes en train d'exprimer et de renforcer votre fidélité l'un envers l'autre, un petit reflet de l'alliance inébranlable entre Jésus et son peuple. Qu'en est-il du deuxième but? Quelle est la mission donnée aux chrétiens? Faites des disciples de toutes les nations. Cette mission vise fondamentalement le même but que celle d'Adam, remplir la terre de représentants de Dieu qui vont faire briller la lumière de son image partout. Mais maintenant, on accomplit cette mission principalement par l'annonce de l'Évangile dans l'Église, dans le monde. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour le mariage et la sexualité? Au contraire, dans le Nouveau Testament, d'abord, la procréation est valable, mise en évidence, mais maintenant, ce qui compte, ce n'est pas juste le simple fait d'avoir des enfants. Éphésiens 6, 4, c'est le fait d'élever les enfants selon le Seigneur. Donc, avoir des enfants, c'est l'un des moyens d'accomplir, de faire des disciples. La procréation a été englobée, en quelque sorte, dans le grand mandat que Jésus nous a donné. Mais plus que ça, comme Adam et Ève, un mari et une femme forment une petite équipe. Avec leurs ressemblances et leurs différences, ils travaillent ensemble afin de propager et servir l'Évangile. Et la sexualité sert ce but. Mari et femme, vous êtes en train de sceller d'une manière très tangible votre partenariat dans l'Évangile. La bénédiction que vous expérimentez ensemble devrait déborder dans une inondation de bénédictions envers vos enfants, envers l'Église, envers le monde. L'unité et la confiance que vous créez dans votre chambre vous fortifient afin de servir le Seigneur ensemble. Vous êtes pour un instant face à face en tant qu'amoureux pour que vous puissiez par la suite marcher côte à côte en tant que coéquipier, pour que vous puissiez lutter dos à dos en tant que camarades. Quel honneur et quel privilège sont accordés au mariage et à la sexualité. Nous ne prenons pas l'approche des moines, car nous croyons que les relations sexuelles sont bonnes et saintes. Nous ne prenons pas l'approche du légaliste, quand nous nous réjouissons de vivre au maximum notre sexualité pour l'Évangile. Nous ne prenons pas l'approche du libéral, car c'est notre honneur de mourir aux pratiques de ce monde afin de vivre pour quelque chose de plus, bien plus glorieux. Oui, au sein d'un mariage hétérosexuel, monogame, fidèle, les relations sexuelles sont quelque chose de très beau à rechercher avec joie. Voici Proverbes 5, 18 à 19, en bas de l'affiche là. Que ta source soit bénie et fais ta joie de ta femme, de ta jeunesse, biche des amours, gazelle gracieuse, enivre-toi de ses seins en tout temps, sois sans cesse grisé par son amour. Et voici 1 Corinthiens 7, 3 à 5, un peu plus haut sur les fiches là. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, de même la femme à son mari. Ce n'est pas la femme qui a autorité sur son propre corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui a autorité sur son propre corps, c'est sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, sinon pour un temps et d'un commun accord, afin de vous consacrer à la prière, puis reprenez votre vie conjugale, de peur que le Satan vous mette à l'épreuve, parce que vous ne sauriez pas vous maîtriser. Mais essentiellement, Paul dit, ayez beaucoup de relations sexuelles, puis vous pouvez aller prier pour un moment, puis ayez encore beaucoup de relations sexuelles. La Bible n'a pas peur de dire cela. Et mari et femme, vous rendez compte de la valeur de ce qui se passe dans votre chambre. Il faut en profiter au maximum. Mais il faut aussi travailler les relations sexuelles afin de les vivre pleinement selon l'Évangile. Est-ce que vous poursuivez l'intimité et la romance afin de refléter l'intimité spirituelle qui existe entre Jésus et son peuple? Vous pouvez exprimer l'intimité par la tendresse physique, par les paroles tendres. Marie, on dit parfois que si tu veux toucher ta femme le soir, il faut commencer par des paroles douces lors du petit déjeuner. Vous ne devrez pas avoir une vie sexuelle sans une vie romantique. Ça exige peut-être un peu d'effort. Je connais un couple qui met de côté une soirée par semaine pour passer du temps ensemble. Je connais un mari qui aime se prendre sa femme par des petits cadeaux de temps en temps. Encore mieux, partir pour une ou deux nuits dans un hôtel ensemble. Tout ça contribue à la qualité de votre mariage et de votre vie conjugale. Est-ce que vous valorisez la fidélité afin de refléter l'alliance entre Jésus et son peuple? Combien c'est facile de laisser nos émotions diriger notre mariage, y compris les relations sexuelles. Si on ne se sent pas amoureux ou attiré, on lâche. Mais l'amour de Jésus est basé sur les promesses de grâce et n'est pas secoué quand nous ne sommes pas très aimables. Est-ce que vous poursuivez l'amour sacrificiel afin de refléter le sacrifice de Jésus? Marie, vous sacrifiez pour votre femme devrait caractériser tout aspect de votre mariage. Les relations sexuelles ne semblent peut-être pas être un sacrifice, mais est-ce que tu cherches le plaisir de ta femme plus que le tien? C'est quand les deux partenaires prennent plaisir à donner du plaisir à l'autre personne plus qu'à soi-même que les relations témoignent de l'amour sacrificiel de Dieu. Et est-ce que vous poursuivez l'unité, afin de refléter l'unité qui existe entre Jésus et son peuple, et aussi afin de fortifier votre partenariat dans l'Évangile, au service de l'Évangile. Oh, quel privilège d'être une seule chair, d'avoir un partenaire, un vis-à-vis, un coéquipier, et quelle joie de pouvoir exprimer cette unité d'une manière si tangible. Et si vous passez par un moment difficile dans votre mariage, ou alors une phase de vie qui impacte sur l'intérêt que vous y portez, ou peut-être qu'il y a un problème physique qui vous empêche d'en jouir pleinement, ou peut-être les cicatrices émotionnelles du passé, d'une relation illicite ou d'un cas d'abus viennent gâcher l'expérience. Ce ne sont pas des problèmes qui vont se résoudre du jour au lendemain. Mais j'espère que cette présentation de la beauté d'un mariage et d'une vie sexuelle fondée sur l'Évangile vous donne une base sur laquelle construire. Et si vous avez une telle difficulté en ce moment, n'hésitez pas à venir en parler avec l'un des anciens, avec moi ou avec un ami. Et qu'en est-il des célibataires parmi nous, les veufs ou les veuves, les divorcés? Tant mieux pour les couples mariés, mais moi je suis privé de tout ça. D'abord, je veux reconnaître que cette épreuve est bien réelle. C'est tout à fait normal que nous ressentons le besoin de la proximité humaine. Mais n'oublions pas que le mariage et la sexualité ne sont pas au centre de la vie. On n'est pas moins humain parce qu'on n'est pas marié ou parce qu'on n'a pas de rapport sexuel. C'est possible d'être pleinement épanoui en Dieu seul. Après tout, l'homme le plus saint et le plus heureux qui a jamais existé n'a pas eu de rapport sexuel. C'est aussi possible de servir Dieu pleinement sans être marié. En effet, hommes et femmes, frères et sœurs dans cette salle, nous sommes tous des coéquipiers au service de l'Évangile, pas que les couples mariés. De plus, le Nouveau Testament affirme la valeur du célibat. Lisons 1 Corinthiens 7, 32 à 35. « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Il se demande comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Il se demande comment plaire à sa femme et il est partagé. De même, la femme, son mari, comme la Vierge, s'inquiète des choses du Seigneur pour être sainte de corps et d'esprit. Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. Elle se demande comment plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège. C'est pour que vous fassiez ce qui est convenable et que vous vous attachiez au Seigneur sans distraction. » C'est frappant, n'est-ce pas? Paul refuse d'ordonner ni le mariage ni le célibat. Il nous laisse la liberté de choisir. Ce qu'il veut pour chacun d'entre nous, c'est que vous vous attachiez au Seigneur sans distraction. Autrement dit, la sexualité n'est pas au centre de la vie. Jésus l'est. Et selon Paul, le célibat a certains avantages parce qu'on peut plus facilement servir le Seigneur sans distraction. Alors que le mariage à la famille peuvent présenter certains défis qui peuvent nous distraire du service de Dieu. C'est pourquoi il dit dans le verset 29, « Le temps se fait court, désormais que ceux qui ont une femme sortent comme s'ils n'en avaient pas. » Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer sa femme, mais ça veut dire « Ton mariage n'est pas le centre de ta vie, Jésus l'est, et il revient bientôt. » Alors, marié ou célibataire, accordons à Jésus la place centrale et servons-le de tout cœur. Il faut qu'on parle de l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle est partout et la Bible en parle à maintes reprises. Voici un exemple, 1 Thessaloniciens 4. Abstenez-vous de l'inconduite sexuelle. Que chacun de vous sache prendre femme dans la consécration et l'honneur sans se livrer aux passions du désir comme le font les gens des nations qui ne connaissent pas Dieu. Quand on pense aux interdictions bibliques, on a parfois l'impression que Dieu est un grand rabat-joie. Le désir d'exprimer notre sexualité est tellement fort et tous ceux autour de nous, ils foncent sans être troublés dans leur conscience. Pourquoi tellement de restrictions? Pourquoi devons-nous vivre comme si c'est 1823? Mais si Dieu impose des restrictions, ce n'est pas pour nous frustrer. Notre société veut nous faire croire que le bonheur se trouve dans l'absence de restrictions. Mais non, les restrictions sont souvent pour protéger quelque chose. Si je tiens la main de mon enfant de 2 ans quand il a envie de courir dans la rue, c'est parce qu'il est précieux. Ce n'est pas pour le frustrer. On dit que la sexualité est comme un feu. Dans le contexte d'une cheminée, un feu est attirant et beau. Il donne de la lumière, de la chaleur. Mais s'il sort de ce contexte, le feu est dangereux et destructif. Par rapport à la sexualité, Proverbe 6, 27 dit « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans sa poche sans que ses vêtements s'enflamment ?» Nous ne devrions pas voir les restrictions comme une corvée. La sexualité est trop précieuse, trop belle pour qu'on en fasse n'importe quoi. Nous sommes trop précieux aux yeux de Dieu pour nous laisser faire n'importe quoi. Et au final, l'Évangile est trop précieux pour qu'on en fasse n'importe quoi. Dans le cadre d'un mariage hétérosexuel, monogame, fidèle, la sexualité est belle, passionnante, bienfaisante. Elle reflète et sert l'Évangile. Mais si elle sort de ce cadre, elle est laide, sale, égoïste et destructrice. C'est lorsque les relations, dans le mariage ou pas, ne sont pas caractérisées par l'amour sacrificiel et l'unité, que les problèmes se multiplient, qu'on tombe dans l'égoïsme, l'utilisation de force, pouvoir ou autorité, l'abus, le viol. Et au lieu de refléter et servir l'Évangile, nous le minons. Par exemple, l'adultère, que personne ne pense qu'il soit au-dessus de la tentation. Proverbe 5 connaît le danger, car les lèvres de l'autre femme distillent le miel et sa bouche est plus douce que l'huile. Mais la Bible condamne l'adultère à maintes reprises dans les termes les plus sévères. Au lieu d'œuvrer ensemble pour propager et servir l'Évangile, tu brises ton équipe. Au lieu de refléter l'amour sacrificiel de Jésus, tu détruis la vie de ton partenaire. Au lieu de refléter l'unité de Christ et son peuple, tu crées de la division. Au lieu de refléter la fidélité de Dieu envers son peuple, tu prends de la trahison. Ce n'est pas par hasard que les prophètes employaient très souvent la métaphore de l'infidélité, de l'adultère pour décrire l'infidélité d'Israël envers Dieu. Trahir son mari ou sa femme, c'est trahir Dieu. Bref, au lieu de refléter et servir l'Évangile, on mine l'Évangile. Le pardon est possible, bien entendu. Mais quand même, tu mets tes pieds sur une pente glissante qui mène vers la mort. À propos de la femme séductrice, Proverbe 5 continue. Mais par la suite, elle est amère comme l'absinthe, acérée comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas mènent tout droit au séjour des morts. Oui, combien de chrétiens abandonnent Jésus à cause de l'infidélité sexuelle? Nous avons tous entendu d'histoires, souvent de pasteurs, qui abandonnent leurs églises, qui abandonnent leurs femmes à cause d'une autre femme. Quel dégât. Sois prêt. Réfléchis et prends ta décision maintenant. Car dans le moment de tentation, réfléchir est difficile. Mets les pour et les contre sur une balance. Qu'est-ce que tu gagnes? Quelques minutes de plaisir? Et en retour, tu détruis ton mari ou ta femme, tu détruis tes enfants, tu détruis ton partenariat au service de l'Évangile, tu détruis l'image de l'Évangile, tu détruis toi-même. Fuyez l'adultère. Ce n'est pas le moment d'entamer une discussion sur le divorce, mais notons brièvement que la Bible l'interdit également, sauf peut-être dans les cas exceptionnels. Pourquoi? Parce que le mariage est une alliance d'amour, de sacrifice, d'unité, de fidélité pour refléter et servir l'Évangile. La divorce, ça brise tout ça. Et n'hésitez pas à venir en parler avec nous si vous avez des questions là-dessus. Mais parlons maintenant de la promiscuité. Et ici, je m'adresse surtout à vous qui n'êtes pas mariés, pas encore mariés. La promiscuité est endémique dans notre société. On a le droit d'exprimer notre sexualité comme on veut. Des relations avec son copain ou sa copine, des rapports sexuels occasionnels, les parties multiples, les orgies, la prostitution, etc. La Bible condamne de telles pratiques. Et pourquoi? Parce qu'on sort la sexualité du cadre pour lequel elle a été créée. On l'utilise pour des fins purement égoïstes. On s'en fiche de l'amour, du sacrifice, de l'unité, de la fidélité et de l'autre personne. On veut avoir le plaisir sans l'engagement qui devrait aller avec. Bref, au lieu de refléter et servir l'Évangile, on mine l'Évangile. Fuyez la promiscuité. Qu'en est-il de l'homosexualité? Je suis conscient qu'il s'agit d'un sujet sensible, mais la Bible dit clairement que les relations homosexuelles ne sont pas un moyen approprié d'exprimer la sexualité. Je vous ai donné un exemple, Ben a lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 6, 9. Pourquoi? Parce qu'on sort la sexualité du cadre pour lequel elle a été créée. On perd la complémentarité de l'homme et de la femme. On perd la procréation, évidemment. Bref, on cesse de refléter et servir l'Évangile. Cependant, on agit parfois comme si les relations homosexuelles sont pires que d'autres péchés. Ce n'est pas le cas. Que ce soit les relations homosexuelles ou bien les relations hétérosexuelles, mais hors du mariage, le problème est pareil. On n'a pas le temps de traiter ce sujet difficile aujourd'hui, mais si vous luttez avec ce sujet, sachez que la grâce de Dieu est là et que nous serions heureux d'en parler avec vous. Et maintenant, la convoitise. Jésus dit dans Matthieu 5, 27, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » La convoitise, c'est aussi grave que l'adultère. Dieu ne s'intéresse pas que de nos actions, mais aussi de nos attitudes. Il veut que nous soyons purs dans nos cœurs. Et pourtant, la convoitise est toujours à notre disposition. On a l'impression qu'elle n'est pas si grave. Que ce soit jeter un regard au corps d'un collègue sans qu'elle le voie, que ce soit nourrir des fantaisies sexuelles dans ton imagination, que ce soit rêver d'être marié à cet homme dans l'église qui semble être plus attentionné que ton mari. Eh oui, la pornographie. Je connais un couple chrétien qui a été détruit par la pornographie. Le mari ne pouvait jamais faire face à son problème. C'était une pente glissante. Il a fini par commettre l'adultère et ils se sont divorcés. Encore une fois, la convoitise se sert de la sexualité pour les fins purement égoïstes. On s'en fiche de l'amour, de l'unité, du sacrifice, de la fidélité de l'autre personne. Bref, au lieu de refléter et de servir l'Évangile, on mine l'Évangile. Tuez ces pensées dès qu'elles surgissent. Installez un logiciel sur votre ordi pour bloquer les sites pornographiques. Demandez de la prière et des conseils. Fuyez la convoitise. Enfin, un petit mot si vous avez un copain ou une copine. Sortir ensemble, c'est un bon moyen de savoir si vous voulez vous marier, mais vous n'êtes pas marié, et toute expression sexuelle est donc inappropriée. Pourtant, la tentation est forte. Je sais, j'ai passé par cette phase, il faut faire très attention. Et parfois, on entend cette question. Je sais qu'on n'a pas le droit de coucher ensemble, mais jusqu'où peut-on aller? C'est la mauvaise question. On est en train de dire, je veux savoir où est la ligne. En dessous de cette ligne, c'est pour Dieu, mais en dessous de cette ligne, c'est à moi. Vous voyez, c'est une attitude légaliste. La bonne question, c'est, quel est le maximum que je peux faire pour honorer Dieu? Et pour la plupart d'entre vous, tenir la main ou mettre le bras autour des épaules n'a rien de sexuel et peut-être un moyen approprié de montrer de l'affection. Peut-être pour certains, même ça, même tenir la main avait une réponse sexuelle et devrait être évité, qui sait. Les amis, surtout vous les ados, je sais que je vous demande d'aller complètement au contre-courant. Vos amis vont croire que vous êtes fous, mais Jésus en vaut la peine. Et le mariage en vaut la peine. Je connaissais une fille qui portait un bracelet de pureté afin de se rappeler de s'abstenir de toute forme de sexualité avant le mariage. Oui, ok, c'est un peu kitsch. Mais elle ne l'aura pas regretté et je sais que son mari aura été très reconnaissant. Au final, est-ce que tu es prêt à tout faire pour honorer ton copain ou ta copine, protéger sa pureté et la tienne, et ainsi honorer Dieu et son dessein pour la sexualité et l'évangile? Je dois finir par un mot pour ceux et celles qui ont péché dans l'un de ces domaines. Et mes amis, ça c'est nous tous. Personne n'est pur. Peut-être que tu es hanté par un échec sexuel dans ton passé. Peut-être que tu es découragé par une bataille continuelle aujourd'hui. Et après avoir condamné l'immoralité sexuelle, 1 Corinthiens 6 continue ainsi, Ben l'a lu tout à l'heure. Et pourtant, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été consacrés, vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. L'Évangile est notre seul espoir. Pour ceux qui se repentent, on peut savoir laver de nos péchés sexuels. Recommencer est toujours possible avec Dieu. Laissons l'Évangile nous redonner de l'espoir. Et puis prenons une nouvelle résolution, mariés ou pas, que nous vivions pour refléter et servir cet Évangile. On prie. Seigneur, merci pour le don du mariage et de la sexualité. Nous voulons confesser nos échecs dans ce domaine et combien on te remercie pour la profondeur de ta grâce qui nous relève et qui nous remet sur le bon chemin. Aide-nous à être, de ne pas vivre dans la culpabilité, mais être saisi par la beauté de ton dessein pour le mariage et la sexualité, de vouloir que l'on soit marié ou pas, de vouloir mettre en évidence l'Évangile par notre façon de vivre notre sexualité. Aide-nous, Seigneur, à être épanouis en Jésus-Christ et à lui donner tout l'honneur. Et on prie au nom de Jésus. Amen.